Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, dans la nuit du 16 juin 1940 au 17 juin 1940 à minuit, très exactement, le gouvernement français, présidé par le maréchal Pétain, demande l'armistice. Six jours plus tard, cet armistice est signé dans la fameuse clairière de Retonde, commence dès lors, pour la France, la période dite de l'occupation. Période ô combien controversée, où souvent la mémoire peut autant refléter que s'opposer à l'histoire. Pour évoquer cette année 1940, et plus exactement ces mois de mai et de juin 1940, Un jour dans l'histoire reçoit Henri Amouroux. Henri Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sans conteste un des plus grands spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale et des Français. En 1999 a été réédité votre grande histoire des Français sous l'occupation dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Vous êtes le doyen de la section Histoire de l'Académie des sciences morales et politiques. Et c'est en tant qu'historien que je vous reçois aujourd'hui, puisque je rappelle à nos auditeurs que vous avez eu aussi une carrière journalistique très importante. En 1997, vous avez publié un livre au titre engageant, et je dirais même engagé, Pour en finir avec Vichy, Les oublis de la mémoire 1940. Il s'agissait d'un premier tome. Vous terminez, je crois savoir, la suite de cet ouvrage.
Oui, je termine péniblement le second volume, ou le deuxième, je ne sais pas, le deuxième volume, parce qu'on n'a jamais fini. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la complexité. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de faire comprendre une époque à travers les gens qui l'ont vécue. Je ne crois pas à la vérité et je ne crois pas à l'objectivité. Je crois à l'honnêteté. C'est tout à fait différent. Je peux me tromper, mais je ne veux pas tromper mes lecteurs, je ne veux pas tromper mes auditeurs. Donc, ça demande à toujours tout remettre en question et à se dire, ne juge pas en mettant la pyramide sur la pointe, ne juge pas avec tes connaissances actuelles, ne juge pas avec tes partis pris, essaie de te replacer dans une époque avec les techniques de l'époque, les moyens de l'époque, les connaissances de l'époque. Pourquoi vous avez évoqué ce volume que j'ai écrit en effet il y a quelques années, il s'appelle « Les oublis de la mémoire » naturellement, parce qu'aujourd'hui, et c'est normal, on raconte cette histoire en ne connaissant plus, en ayant totalement oublié les problèmes de mai et juin 1940.
La mémoire est sélective.
La mémoire est totalement sélective, elle est même totalement oubliée, la mémoire. On ne retient que des grains d'histoire. Et généralement, ceux qui vous arrangent. Alors, bon, je dénonce beaucoup, enfin, chaque fois que je peux le faire, que la place m'en est donnée, les films à prétention historique sur la période de la guerre, c'est-à-dire la période que je connais un petit peu, en tout cas un petit peu mieux que beaucoup d'autres, je les dénonce parce que c'est du noir et blanc, c'est en couleur, c'est pas vrai, c'est du noir et blanc. C'est les bons, les mauvais, c'est le noir, c'est le blanc, c'est les justes, les injustes. Non, c'est pas vrai. Le ciel n'est pas bleu tous les jours, il n'est pas noir tous les jours, il est toujours traversé de nuages, et puis ça va et ça vient. Et l'histoire est complexe. Si on refuse la complexité, si on refuse, je vais employer un mot journalistique, c'est le mot tournant, si on refuse les jours tournants, on ne comprend rien du tout, rien. On résonne comme des tambours, mais il y en a beaucoup avec qui ça fait plaisir de résonner comme des tambours. Moi, je ne suis pas historiquement correct, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aller plus loin et de faire comprendre le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses.
D'accord.
Car l'histoire est une évolution. J'ai écrit en effet 10 volumes dans la série La grande histoire des Français sous l'occupation. Ils sont tous datés. C'est-à-dire, sur la couverture, vous avez le moment. Car le moment est capital. Il n'est pas vrai qu'une année ressemble à une autre année. Mais c'est complètement stupide de croire ça. Complètement.
Alors, avant de disséquer précisément cette année 1940, il me semble important de revenir sur une question, ma foi, certes vaste. Il s'agit des origines de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, l'historiographie a d'abord mis en avant la responsabilité unique d'Hitler et de sa politique étrangère. Et en 1961, il y eut l'ouvrage d'un historien anglais, Taylor, qui sortait précisément de ce manichéisme que vous dénoncez et qui posait la part des responsabilités des démocraties.
Mais naturellement, mais vous savez bien avant Taylor, c'est le maréchal Foch qui l'avait dit. Hein. Il a dit, après la signature du traité de Versailles, ça nous amène à la guerre dans 20 ans. Et c'est exactement 1919-1939. Bon, bien sûr, il y a une grande responsabilité de l'Europe, gagnant des alliés, de la France surtout, beaucoup moins que l'Angleterre et des États-Unis, parce que la France avait souffert, parce que la France avait été occupée, parce que la France avait eu 1 400 000 morts, parce que la France... Bref, pendant 4 ans, une grande partie du territoire français est occupée. On a donc un besoin de revanche qui s'explique. Après, on dit c'est idiot, il aurait fallu faire autrement, mais sur le moment, c'est comme ça. Et on impose des conditions telles à l'Allemagne. Pour d'autres raisons, on dissèque totalement l'Autriche, l'Autriche-Hongrie, ce qui est une stupidité historique qui a lourdes conséquences. Et puis, on impose à l'Allemagne des conditions telles que l'Allemagne aurait dû payer des réparations jusqu'en 1943, je crois. Hein. Or, en 1943, il y avait 3 ans que les Français payaient des indemnités à l'Allemagne. Donc, on fait des conditions telles que nous allons favoriser la misère, nous favorisons le chômage, nous favorisons le nationalisme, évidemment, nous favorisons cette armée de métier que von Steck va faire, n'est-ce pas, et qui va être une armée qui sera une armée de sous-officiers. Bon, et nous favorisons tout ça, et nous favorisons Hitler. Nous le mettons en quelque sorte dans des conditions favorables, de réceptivité. Il y a un événement, si je le dis ça, plus personne ne sait ce qui s'est passé. En janvier 1935, il y a les plébiscites dans la Sarre. La Sarre, 500 000 votants, enfin 480 000, ça n'a pas d'importance, 500 000 votants, à peu près, il y avait là, pour la Sarre, un choix. Au moment du traité de Versailles, il y avait une clause qui disait la Sarre sera française, administrée par des Français, pendant 15 ans. Et puis après, elle pourra voter pour savoir, les Sarrois voteront pour savoir ce qu'ils sont.
Bien. Son statut était international.
Statut, oui, oui, mais avec international, mais avec des administrateurs français. Mmh. Bon. Et avec des journaux français qui paraissaient, qui dénonçaient ce qui se passait en Allemagne. Depuis l'arrivée d'Hitler le 30 janvier 1933, tous les journaux français dénonçaient et disaient comment les Juifs étaient persécutés, les syndicats étaient dissous au mois de mai 1933. Enfin bref, tout ça on le disait. Bien. Les Sarrois étaient donc un peuple à deux regards. Ils regardaient l'Allemagne nazie. Et regardez la France démocratique. Ils ont à se prononcer pour savoir quel va être leur destin. Trois possibilités. Rattachement à l'Allemagne, rattachement à la France, autonomie. Rattachement à l'Allemagne, je voudrais dire un chiffre, je me trompe à 3000 près, mais ça n'a pas d'importance, 450 000 ou 440 000. Rattachement, autonomie, 40 000. Rattachement à la France, c'est catastrophique, 2300. C'est catastrophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens qui ne savaient pas certes vers quel destin ils allaient et vers quel destin ils se condamnaient, à quel destin ils se condamnaient, puisque beaucoup d'entre eux, après, vont être pris dans l'engrenage de la guerre, etc. etc. Bon, ils ne savaient pas. Mais ils votent pour l'Allemagne nazie, c'est-à-dire pour l'ordre, l'emploi, car l'Allemagne de Weimar était une Allemagne qui avait 6 200 000 chômeurs en janvier 1933, et puis ça dégringole à coût de 2 millions. Et tout ça, c'est pas parce que les industries de guerre, c'est pas seulement parce que les industries de guerre sont remises et augmentées par Hitler, c'est pas simplement parce qu'il y a le service militaire obligatoire, c'est parce qu'il y a tout un tas de mesures qui sont les routes, les autoroutes, bien sûr, vous me direz, ça peut servir aussi sur le plan militaire, mais aussi des maisons, des constructions, bref, ils parient sur l'avenir, et le chômage dégringole. Vous savez, les Sarrois font la comparaison. Et ça aura vote pour l'Allemagne nazie. Eh bien, c'est un événement dramatique aujourd'hui, totalement oublié, mais c'est un événement dramatique. Alors la guerre devient fatale, dans la mesure d'abord où l'Angleterre et les États-Unis se désintéressent et laissent tomber la France, sitôt signé le traité de Versailles, et où les États-Unis, avec raison sans doute, font que les réparations allemandes seront de moins en moins lourdes. Il y aura des plans qui vont succéder et qui vont conduire à la diminution des réparations, et que l'Angleterre, qui voit comment les choses se passent et qui est impressionnée par la perte de prestige de la France, qui va s'accentuer naturellement au fur et à mesure que nous abandonnons, ça s'accentuera bien entendu beaucoup plus après Munich. L'Angleterre déjà fait des accords avec l'Allemagne, et l'Angleterre cherche à la Société des Nations. L'Allemagne d'Hitler va partir de la Société des Nations. Et jusqu'à ce moment, au moment du départ d'Hitler en 1933, l'Angleterre cherche un accommodement, parce que l'Allemagne revendique depuis le début, depuis la défaite, l'Allemagne revendique une égalité, un droit à avoir une armée qui ne soit pas la petite armée de 100 000 hommes à laquelle on l'a condamnée. Bon, ça, tiens, elle reste tranquille pendant 3 ans, 4 ans, et puis après, la revendication pousse, et l'Angleterre essaie de trouver un accord que la France refuse tout le temps. Et mon grand ami Durosel, où je suis aujourd'hui le doyen de la section d'histoire et de géographie, j'ai succédé à Durosel, qui était un grand ami, un très grand historien, dans son livre qui s'appelle « La décadence », a mis en cause Barthoux. Il n'est pas le seul d'ailleurs, Benoît Méchain, mais aussi en cause Barthoux. Et Barthoux, qui est ministre des Affaires étrangères en 1934, n'est-ce pas, après le 6 février, Barthoux était un homme qui, lui, refusait tout, absolument tout accord avec l'Allemagne. Et le général Weygand également, qui était lui le grand responsable militaire, le maréchal Pétain, ministre de la guerre, également refusait tout accord avec l'Allemagne. Et il ne croyait pas du tout à la sincérité de l'Allemagne. C'est un pari qu'on fait. L'Angleterre, il croyait qu'il était mieux lié à l'Allemagne. J'ai parlé de la Sarre tout à l'heure. Hitler avait proposé un accord à la France, que la France a refusé, en disant, voilà, bon, on va pas faire ce référendum, on va pas faire un vote, on va pas faire un plébiscite, on va s'entendre. La Sarre deviendra allemande, mais les entreprises françaises, les industriels français, l'économie française gardera tous ses avantages. On a refusé. Et on a eu ce prodigieux camouflet, naturellement. Alors, bon, vous mettez... Bon, Hitler est au pouvoir, il a été mis au pouvoir. Il avait le dernier vote normal, si vous voulez, sans pression politique. C'est le vote de 1932, et Hitler a 37, mettons 38% des voix. Les communistes ont 14%, les sociodémocrates doivent avoir 22-23%. Il n'a pas la majorité. Mais Hindenburg l'appelle après la chancellerie. Et en 1933, c'est lui qui est chancelier. Et puis après, qui règle très vite les choses. Alors après, vous avez un pouvoir centre-Hitler, un pouvoir fort, un pouvoir dominateur, un pouvoir nationaliste, un pouvoir qui remet la fascination de l'ordre. La fascination de l'ordre. Jeter dans la collaboration des hommes qui n'auraient jamais dû y aller, mais des hommes comme Brasillach, comme Drieu La Rochelle, comme ça. C'était la fascination de l'ordre allemand. En comparaison, parce qu'on fait toujours des comparaisons avec le désordre français, avec 1936, avec tout ce qui a suivi. Les États-Unis ne réarment pas, bon, ne soutiennent pas la France. L'Angleterre n'a pas encore mis le service obligatoire, ça sera qu'après la défaite de 40, hein, service obligatoire en Angleterre. Bon, il y a la marine anglaise naturellement, mais enfin, c'est pas avec la marine anglaise qu'on va battre l'Allemagne, bien entendu. On peut empêcher le ravitaillement de l'Allemagne, on va pas la battre. Et la France se retrouve toute seule. Tous les alliés sont perdus. En 40, il faut bien comprendre, en mai 40, lorsque le 10 mai Hitler attaque, il faut bien comprendre qu'il n'y a que 10 divisions anglaises sur le front français. S'il y en avait eu 60, bah, tout était changé.
Alors, avant de rentrer dans ce mois de mai 1940, si vous pouviez rappeler quel est l'état des forces, vous parliez de l'industrie allemande tout à l'heure, l'industrie militaire, quel est l'état des forces allemandes
et
l'état des
forces françaises ? C'est un problème de démographie. Vous avez 40 millions de Français qui travaillent moins, car je me permets de vous le rappeler, mais vous le savez certainement, il a fallu attendre fin 38 pour que la loi des 40 heures ne soit plus imposable dans les industries de guerre, ce qui est quand même fabuleux, fabuleux, de sottise et de folie même. Et donc 40 millions de Français qui travaillent pas tellement, et vous avez 80 millions d'Allemands qui travaillent beaucoup. Eux, ils font 60 heures par semaine. Nous, on en fait 40, dans les industries de guerre. Alors, vous avez, bon, on dit ici de Gaulle, ça n'aura rien changé du tout, rien changé du tout. Il n'y avait pas assez d'hommes, même si on disait numériquement, c'est à peu près le même chiffre d'hommes en face. Non, c'est pas ça, c'est autre chose, c'est un problème d'âge. En 80, j'avais fait 45 émissions sur la première chaîne qui s'appelait Mai-Juin 40, histoire d'un printemps tragique. Et j'avais des films français pour les 4-5 premiers jours de guerre. Après, quand l'armée est battue, elle ne filme pas, naturellement. Et après, des films allemands. Le 10 mai, j'ai des films français, des films allemands. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des films français, un convoi d'artillerie qui est entré en Belgique, et ce convoi d'artillerie, le réalisateur avait même mis des chants d'oiseaux pour faire plus beau, il y avait des fleurs. Le convoi d'artillerie s'arrête et on voit des hommes qui avaient 27 ans, 28 ans, 29 ans qui sortent, descendent de leur convoi et des canons pour aller cueillir des fleurs dans les prés. Bon. Et puis, il y a une image allemande. Ça se passe au Luxembourg, si j'ai bonne mémoire. Ils entrent au Luxembourg et que voit-on ? Des garçons de 19 ans ou 20 ans, en chemise, avec les manches retrouchées, la grenade dans la botte et qui franchissent des haies comme ça en sautant. Vous savez, quand une armée a en moyenne 4 ans de différence d'âge, entre 20 ans et 25 ans, à 25 ans vous êtes marié, vous avez un emploi, vous avez quelque chose à perdre. À 20 ans, vous n'avez rien à perdre, sauf la vie. Vous n'avez pas tout à gagner, c'est différent, vous vous engagez plus fortement, c'est différent. Alors voilà, alors bon, il y avait donc moins d'armes modernes. Les Allemands, on parle toujours du char et de l'avion. On oublie un élément essentiel, c'est la DCA. Les unités allemandes qui avançaient, lorsqu'elles avançaient, avaient, avec les régiments, avaient au milieu d'eux des batteries de DCA. Si bien que les ponts sur la Meuse, qui ont été pris par les Allemands le 12 mai 1940, l'aviation anglo-française s'est sacrifiée sur les ponts sur la Meuse. Les Anglais ont perdu 50 ou 60 appareils dans la journée. Jamais autant, proportionnellement naturellement, de toute la guerre, ils n'ont jamais perdu proportionnellement autant d'appareils que ce jour-là. Et pourquoi ? Parce que ces appareils bombardaient des positions défendues par la DCA et les ponts n'ont pas été détruits. Alors bon, vous avez moins d'armes. Et puis, une stratégie erronée qui conduit l'armée française à s'avancer en Belgique. Les Allemands avaient d'abord pensé à une stratégie classique, c'est-à-dire attaquer par la Belgique, etc. Ils n'avaient pas pensé à Sedan. Sedan, c'est Guderian, c'est le général Guderian qui convertit Hitler à la percée sur Sedan, c'est-à-dire les positions les plus faibles, les plus protégées par la nature, les mieux protégées par la nature, mais aussi les moins bien défendues de la France.
C'est pour cette raison, Henri Amoureux, que la France ne s'y attendait pas.
Vous savez, généralement, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Il faut toujours attendre d'être attaqué sur l'endroit qu'on a mal défendu. C'est ça qui est intelligent. La guerre du Kippour, les Israéliens, je vous assure qu'ils sont calés pour le renseignement, les Israéliens ne s'y attendaient pas. Pourquoi ils ne s'y attendaient pas ? Pour les mêmes raisons que nous n'y attendions pas. Parce que nous avions été alertés 5 fois, 6 fois, 7 fois, et les fausses alertes vous endorment. La Fontaine racontait ça, il y a une fable de La Fontaine, c'est Guillot, hein ? Il y a une fable de La Fontaine qui dit ça. Bon, on vous alerte un certain nombre de fois, puis après, pof, on vous tombe dessus quand vous n'y attendez pas. Alors bon, l'armée française s'est engagée jusqu'en Hollande, l'armée Giraud est allée jusqu'à Breda, et après, elle a reculé beaucoup trop lentement. Et elle aurait dû se replier très vite, mais il est très facile de refaire l'histoire, vous savez, quand on est dans son bureau, qu'on ne risque rien du tout, il n'y a ni bombe, ni balle, tout ça est très simple à faire. Malheureusement, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un engourdissement, et les Allemands laissent les Français s'engager en Belgique, ils ne bombardent pas les colonnes qui s'engagent en Belgique. Ça leur rend service, plus loin elles vont, et plus nombreuses elles sont. Plus ils vont coincer, séparer, plus de monde possible, ils vont prendre au piège l'armée britannique, l'armée belge et la meilleure partie de l'armée française. Ça finira tout ça à Dunkerque, à la fin du mois de mai.
Les deux photographes de l'Académie des Beaux-Arts, Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand, se livrent au micro de Canal Académie pour vous donner leur regard respectif sur l'univers de la photo. Rencontrés au musée Marmottan-Monet où une exposition leur était consacrée, la Camargue natale de Lucien Clergue et le Paris vu du ciel de Yann Arthus-Bertrand sont à l'honneur. Lucien Clergue, Yann Arthus-Bertrand, regard croisé inattendu en terre impressionniste, une émission Carrefour des Arts à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Je reçois Henri Amoureux, qui est spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et qui nous parle de ces 2 mois décisifs dans notre histoire de France, que sont les mois de mai et juin 1940. Alors vous avez bien montré cette guerre éclair. Je vais peut-être avoir une vision franco-française, mais quel est le paysage politique français à cette époque ? Est-ce que l'Union nationale prime ?
Non, mais oui, enfin en apparence, dans les journaux, parce qu'il y a une censure. Parce qu'il y a une censure. Mais vous faites bien de me poser la question. Le 9 mai, hein, Hitler attaque le 10, nous sommes d'accord. 10 à l'aube, le 10 à 3h du matin. Hein ? Bon, le 9, il n'y a plus de gouvernement français, il n'y a plus de commandant en chef. Car le 9 mai, il y a la querelle qui opposait Daladier à Reynaud. Daladier n'était plus président du Conseil. Reynaud était devenu président du Conseil en mars 1940, et Daladier ne l'était plus. Et Daladier était resté ministre de la guerre. Et Reynaud, avec raison d'ailleurs, mais bon, pensait que Gamelin, le général Gamelin, qui commandait les armées françaises, était un mauvais général. Il n'était pas un général offensif, de qualité, etc. Reynaud, il ne faut jamais oublier, inspiré par De Gaulle, hein, qui a De Gaulle derrière, qui lui souffle ses idées sur le plan militaire. Donc, mais il voulait donc que Gamelin soit remplacé. On n'a jamais su par qui il voulait le remplacer, ce qui est d'ailleurs extraordinaire. Et il y a un conseil des ministres, le 9 mai, et ce conseil des ministres, réuni sous la présidence du président Lebrun, réuni les ministres, et Reynaud et Daladier s'opposent. Reynaud prononce un véritable réquisitoire contre le général Gamelin, réquisitoire qui avait été préparé par le colonel de Gaulle. De Gaulle n'était pas encore général. Il deviendra au premier jour de juin 1940. Et en conclusion, il demande le départ du général Gamelin. Daladier, qui est ministre de la guerre, s'oppose formellement et dit, dans ces conditions, moi, je démissionne. Donc Reynaud dit au président de la République, Monsieur le Président, je vous apporte la démission, je démissionne. Oh, vous pensez comme ça reste secret, mais enfin, c'est une plaisanterie. Tous ces personnages, le personnage de la République dit « Je vais consulter le président Herriot, qui était le président de la Chambre, je vais consulter le président Jeannet, qui était le président du Sénat, et messieurs, bien sûr, nous nous reverrons demain, 10 mai, nous nous verrons demain, et puis on va faire un nouveau gouvernement, bien entendu. » Alors on n'en parlait pas, mais ils ont tous des chefs de cabinet, tous ces ministres, ils ont tous des femmes. Beaucoup d'entre eux doivent avoir des maîtresses, j'imagine, enfin j'en sais rien, mais bon, c'est possible. Vous croyez qu'on n'en parle pas, mais véritablement, on le sait tout de suite, ça n'a absolument pas décidé l'attaque allemande. L'attaque allemande ne se prépare pas en 24 heures, en moins de 24 heures. L'attaque allemande était préparée depuis plusieurs jours, notamment ce coup extraordinaire, l'attaque des forts belges par des planeurs, c'est-à-dire les planeurs arrivent sur les superstructures des forts et lâchent des commandos parfaitement entraînés qui vont, avec des pertes minimes absolument, placer des explosifs, faire sauter tous les canons des forts, qui les rendent inutilisables en quelques heures. Bon, tout ça se planifie pendant des jours et des jours, et des semaines. Mais il n'y a plus le gouvernement et il n'y a plus le général en chef. Si bien que, dans la nuit du 10 mai, le général Gamelin écrit à Paul Reynaud, et M. Paul Reynaud écrit au général Gamelin le même texte à peu près, « Mon général devant le danger, nous sommes unis, bien entendu, et le général Gamelin, Monsieur le Président, devant le danger, nous sommes unis. » Bien sûr, mais comment peut-on imaginer que le pays est gouverné par quelqu'un qui était démissionnaire quelques heures avant, et que l'armée est commandée par quelqu'un qui n'avait plus le crédit, qui n'avait plus de crédit auprès du président du Conseil. Voyons, c'est la pire des conditions. Et Gamelin va s'effondrer en quelques jours. Paul Reynaud va faire venir le général Weygand qui était en Syrie. Le général Weygand arrive le 19, ne connaissant pas la situation. Il ne faut jamais oublier, jamais quand on parle de cette époque. Le téléphone portable est à venir. La télévision est à venir. L'Internet est à venir. Les satellites sont à venir. Tout est ça, tout ce qui est notre quotidien est à venir. Donc, le général Weygand arrive, il ne connaît pas la situation. Il faut qu'il se mette au courant de la situation. Et pour se mettre au courant de la situation, il prend une décision très courageuse, mais extravagante, courageuse. Comme il est coupé du front, il prend un avion pour aller sur le front franco-belge, qui restait, n'est-ce pas, alors que les armées retraitées, pour voir le général Gort, qui commandait la division britannique, le général Billotte, qui commandait les armées françaises, et le roi des Belges. Il va atterrir sur un petit terrain d'aviation où il n'y a plus personne. Plus personne. Il n'y a plus personne sur ce terrain d'aviation. Il y a un seul soldat qui se trouve là, comme par hasard. Soldat qui, d'ailleurs, que j'ai retrouvé après, qui m'a écrit bien des années après, qui était là. Dont le général Weygand parle dans ses mémoires. Vous savez, la guerre était perdue, elle était perdue pratiquement, à mon avis, du jour où on l'a déclarée. Elle était perdue du jour où on l'a déclarée. Parce qu'on n'a rien fait pour se préparer à cette guerre, on n'a pas utilisé les leçons de la guerre de Pologne, on a méprisé l'adversaire. C'est une grande tradition française pitoyable. En 70, on méprise l'adversaire. 1870. En 1914, on méprise l'adversaire. En 40, on méprise l'adversaire. En Indochine, on j'ai été correspondant de guerre plusieurs fois en Indochine, on méprise l'adversaire. En Algérie, on méprise l'adversaire. Il vaut mieux le surestimer, l'adversaire. Si on avait surestimé, on aurait été meilleur.
Alors, le 18 mai 1940, Reynaud remanie son gouvernement, il est toujours au gouvernement, et il appelle Pétain, qui devient vice-président. Pétain arrive, donc, et que représente-t-il pour les Français à l'époque ?
Il représente essentiellement le vainqueur de Verdun. Si vous prenez toute la presse de l'époque, et Reynaud va le dire devant l'Assemblée nationale, il va dire « j'ai appelé avec moi le vainqueur de Verdun ». Verdun, ça dit plus grand-chose aujourd'hui, mais enfin quand même, ça vous dit quelque chose, Verdun. Verdun, c'était un événement considérable. Et c'est la dernière victoire remportée par l'armée française seule. Après, elle n'a que des victoires de coalition. Et Verdun, c'était Pétain. Et donc, c'est Verdun, il représente Verdun.
Et il est indiscuté, donc.
Pardon ?
C'est un homme indiscuté.
Parfaitement, absolument. Tout le monde, la droite, la gauche, on fait tout ça, d'abord, Non, indiscuté... Pour les gens qui avaient 40 ans, 45 ans, bon, mon père a fait la guerre de 14-18, pour les gens qui avaient 45 ans, qui n'étaient pas des grands vieillards, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, les gens de 40, les hommes de 40 étaient des gens de 45 ans, 40 ans, 48 ans, qui avaient fait la guerre, une guerre effroyable, très dure, où ils avaient été très courageux, comme les soldats allemands d'ailleurs, comme tous les soldats qui étaient là. C'était Pétain, c'était Verdun, c'était ce symbole, on tiendra. Bon, c'était pas possible, parce que les conditions étaient totalement changées. La rapidité de l'armée allemande était telle que c'était plus possible. On pouvait pas rétablir le front. Et puis d'ailleurs, beaucoup trop... Weygand, après, Pétain ne fait rien sur le plan militaire. C'est le plan psychologique, Pétain. Weygand arrive, mais il a 50 divisions, 60 divisions, pour faire face à 150 divisions allemandes. Il a les restes de 4 divisions cuirassées. Les restes, il peut à peine faire une division cuirassée et demie. Non. Vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Cette guerre, il y a eu plus de 80 000 morts, c'est-à-dire une cadence, si je mets le mot entre guillemets par respect pour les morts, une cadence plus grande qu'en 16, pour 6 semaines de bataille, plus grande qu'en 1915, plus grande qu'en 1916, plus grande qu'en 17, plus grande qu'en 18. Non, c'est pas du tout ce qu'on croit, ça a été très, très dur. Certains, vraiment, se sont battus très héroïquement, mais en infériorité numérique, en infériorité d'armement. Vous vous battez toujours à deux, à un contre deux ou contre trois. Et puis, pour les canons, nous n'avions pas assez de canons anti-char, nous n'avions pas nos divisions. Blindées, là, de Gaulle avait absolument raison. N'étaient pas en divisionné, à l'exception des trois divisions blindées, quatre avec celle de Gaulle, nous avions affaire à 10 divisions allemandes, qui, elles, étaient comme un point qui fracassait les défenses françaises. Bon, ça s'est fait très vite, très très vite. Vous savez, comme les Allemands sont allés très très vite en Russie, on oublie trop les comparaisons. Dans le même sens de temps, les Allemands sont allés plus loin en Russie qu'ils ne sont allés loin en France. Seulement la Russie avait l'espace. Nous n'avions pas l'espace, sauf l'Afrique du Nord. C'est une autre question, il faudrait une heure encore pour en parler. Et nous n'avons certainement pas le temps aujourd'hui.
Bien, Henri Amouroux, nous marquons une courte pause. Je rappelle à nos auditeurs qu'Un jour dans l'histoire vous reçoit pour parler de l'armistice de juin 1940.
Dans l'émission Un jour dans l'histoire, le grand historien moderniste Lucien Belli revient sur l'art de la paix en Europe ou les origines de la diplomatie moderne. Une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Alors le 25 mai, Lebrun, qui est le président de la République, réunit le comité de guerre et pour la première fois on parle d'armistice. Alors Reynaud, visiblement, ne veut pas évoquer l'armistice. Par contre, Pétain, lui, l'évoque.
Le mot armistice, soyons sérieux, il rôdait dans tous les esprits. Et le mot armistice rôdait d'autant plus dans tous les esprits que Göring avait fait savoir par Nordling, le consul suédois qui va jouer un rôle important au moment de la libération de Paris. Nordling avait rallié Paris, il avait vu Göring en Allemagne. Et Göring lui avait dit, voyez le président du Conseil, dites-lui que la France va perdre la guerre et que nous sommes prêts à faire des conditions d'armistice relativement convenables. Et Nordling a rencontré Reynaud, lui a parlé de ses propositions allemandes, et Reynaud lui a dit « si je ne vous connaissais pas, je vous ferai arrêter comme défaitiste ». Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on ne refait pas l'histoire. Elle est comme ça. Et alors, bon, on est allé jusqu'au bout. Et le bout, c'était à Bordeaux. Bordeaux, qui est la capitale tragique de tous les malheurs de la France. Bordeaux, 1870. Bordeaux, 1914. Et Bordeaux, 1940. Le gouvernement se replie d'abord sur la Loire, dans les châteaux de la Loire, où le téléphone... L'Internet n'existe pas. Le téléphone portable n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le téléphone en 40 ? En mai 40 et juin 40. C'est dans les châteaux de la Loire, une petite cabine à côté des water closets, à côté des petits coins. Et là, vous tourniez la manivelle et vous demandiez à un téléphone, à une demoiselle du téléphone, vous demandiez le 14 ou le 16 ou le 22 ou le 23. C'était ça, le téléphone. Et la demoiselle savait pas, il fallait du temps pour avoir la personne que vous cherchiez. Et la communication, qu'est-ce que c'est que la défaite en 40 ? La défaite, c'est lorsque le téléphone ne répond pas. Vous ne savez pas ce qui se passe.
Il y a une lenteur de la communication, alors que parallèlement, il y a le blitzkrieg.
Oui, et il y a une rapidité de communication allemande. C'est passionnant de voir les films tournés par l'armée allemande. On voit qu'il y avait des petits avions de liaison qui parachutaient des messages à des voitures de commandement allemandes. Les généraux étaient dans leurs voitures de commandement, n'est-ce pas ? Avec une petite protection, mais c'est pas ça qui comptait, avec des postes émetteurs, des postes récepteurs et des postes émetteurs. Et on leur lançait des messages, n'est-ce pas ? Et ils n'étaient pas dans des voitures civiles comme étaient les généraux français, des voitures de réquisition. Ils étaient dans des voitures militaires faites pour les officiers qui commandent sur le front. Pas un problème de courage, c'est un problème de moyens, c'est un problème de conception. On n'a pas, je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas fini ma phrase, parce que j'ai entre tous les défauts celui d'ouvrir des parenthèses et de ne pas les fermer. On n'a pas analysé l'expérience de la Pologne, de la guerre de Pologne, qui aurait dû... On a dit, oh mais les Polonais, c'est pas pareil. Ah oh, mais les Polonais, bien sûr, les Polonais, c'est pas pareil. Les Polonais, c'est pas des gens lâches, c'est des gens courageux, les Polonais. Ils sont battus, les Polonais. Ben, ils ont été battus. Et on aurait dû analyser. On avait tous les éléments pour le faire. On n'avait pas analysé l'expérience de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire les bombardements en piqué. Nous n'avions pas d'avion correspondant au Stuka, nous n'en avions pas. On n'avait pas de parachutistes. On n'avait pas tout ça. Enfin voilà, ça s'est passé comme ça. C'était fatal. Hein. Pas un problème de courage, c'est un problème. Et puis il y avait pas... les Anglais n'étaient pas là. Il y avait 10 divisions. En 1915, il y a 60 divisions anglaises sur le front français. S'il y avait 60 divisions anglaises, on n'est pas battu. On tient. Il n'y a pas de question, on tient. Voilà, supériorité. Voilà.
Alors, Henri Amoureux...
Et les Anglais nous auraient évité, et ce serait évité, à eux-mêmes, des années tragiques, et au monde entier.
Alors, le 16 juin, Reynaud démissionne, Pétain...
On est à Bordeaux, d'abord.
Oui, on est à Bordeaux. L'armistice est demandé par Pétain, qui devient en fait président du Conseil.
Mais ben, il ne devient pas en fait, il devient... Paul Reynaud démissionne, et dans l'après-midi, dans la soirée...
Il devient chef du gouvernement.
Attendez, oui, mais Paul Reynaud démissionne. Alors, il pouvait très bien ne pas démissionner. Hein. Il pouvait très bien prendre un avion, d'autant plus qu'il avait rendez-vous le lendemain avec Churchill, et qu'on a dû arrêter Churchill... qui était déjà monté dans le train, qui devait le conduire sur un port, dans un port anglais. Dans ce port, il prenait un bateau pour rejoindre Reynaud, et pour qu'ils discutaient tous les deux sur un bateau, un croiseur, je ne sais pas quoi, mais enfin sur un bateau, ils auraient discuté. Et on dit à Churchill, on court, on arrête. Non, non, arrêtez, monsieur le Premier ministre. Paul Reynaud a démissionné. Voilà comment il apprend la démission de Reynaud. Après lui avoir téléphoné dans l'après-midi, un projet d'accord franco-britannique, d'union intime, il n'y a plus qu'un État, la France, l'Angleterre, c'est le même État, l'armée, c'est la même armée, la marine, c'est la même marine, etc. Et les colonies, c'est la même colonie. Ce qui, quand les ministres français qui sont à Bordeaux réunis dans le bureau, la préfecture de Bordeaux, rue Vital-Garl, quand ils apprennent ça, ils sont étranglés. La maîtresse de M. Paul Reynaud, qui s'appelait Madame de Porte, la maîtresse lui fait passer un billet, vous n'allez pas jouer les Aliénors d'Aquitaine. Bon, voilà. Et voilà, bon. Alors Reynaud démissionne, et le président Lebrun fait appel au maréchal Pétain. Parce que le maréchal Pétain, effectivement, disait il faut demander l'armistice, plus tard on le demande, plus dramatiques seront les conditions. Si on avait demandé l'armistice avant la prise de Paris, les Allemands n'auraient pas pris Paris. C'est évident. Bon. Je comprends aussi qu'on attend toujours, mais bon, on attend tellement qu'à un moment donné, ben ça devient terrible.
Pour demander l'armistice, en 1918, on était passé par les États-Unis. Cette
qui
fois,
les Allemands, vous voulez dire.
Les Allemands étaient passés par les États-Unis, le président Wilson. Là, on passe par l'Espagne.
Non, non, non. Bon, ils viennent à Retourne, ils passent pas par les États-Unis, ils viennent à Retourne, et alors le train du maréchal Foch, ils envoient une délégation qui est reçue par l'armée du général de Benet. C'est l'armée du général de Benet qui avait enfoncé d'ailleurs des défenses allemandes, et vous aviez des émissaires allemands avec le drapeau blanc qui viennent et qui demandent l'armistice. Après, mais il y avait eu en effet les points, les 14 points de Wilson, mais non, ils demandent l'armistice à la France, aux Alliés et à Foch. Car la photo du wagon avec Foch, Végan et les Anglais, mais c'est Foch que vous voyez qui domine, c'est Foch. Hein, c'est pas ni les Anglais, ni les Américains, ni personne d'autre. Non. C'est une victoire. C'est la victoire française. C'est la victoire de la France, de l'armée française. Et c'est Clémenceau qui dirige à Versailles. C'est Clémenceau. Non. Les Américains ont joué un rôle important, mais non. Alors là, on passe par l'Espagne. Le maréchal Pétain voulait passer par le Vatican, ce qui était une erreur. Et on passe par l'Espagne. Et l'Espagne qui était en liaison. L'ambassadeur d'Espagne s'appelait Lecarica, il était à Bordeaux, il était en liaison constante avec Madrid. Il voyait bien qu'on était obligé de demander l'armistice. Si on ne demande pas l'armistice, je peux vous dire que le 22 juin, la France entière est occupée. Le 22 juin, avant même les conclusions de l'armistice, le 22 juin, la France entière est occupée. Bon, il faut dire la vérité, il n'y a que le mensonge. Qu'est-ce que c'est que le mensonge ? Qu'est-ce que c'est que le mensonge ? Mensonge, c'est un paravent. Si vous ne pouvez pas vous déshabiller sans paravent, prenez un paravent. Hein ? Mais le paravent n'a jamais caché les varices, il n'a jamais rien caché. Hein ? Bon, alors, le paravent, en histoire, non, on s'en fout. Il ne faut pas de paravent en histoire. Qu'est-ce que c'est ? C'est 7 à 8 millions de gens sur les routes. 8 millions de gens qui sont complètement perdus. Et dans le livre que vous m'avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire « Les oublis de la mémoire », pour rafraîchir la mémoire, j'ai publié des pages extraites de la Dépêche, le journal de Toulouse, qui publiait des pages entières, tous les jours, de gens qui recherchaient leurs maris, leurs femmes, leurs enfants. Et j'ai même trouvé un général, en lisant, un général qui recherchait sa division par petite annonce. Bon, c'est ça, si on ne comprend pas, alors aujourd'hui, il n'y a que des héros. Hein. Les mêmes sont des héros, naturellement. Ah ben, il fallait résister, il fallait tenir. Les mêmes, qui si une femme est attaquée, ils sont sur le trottoir de droite, si une femme est attaquée sur le trottoir de gauche, ils n'y vont pas. S'il y a quelqu'un qui est attaqué dans le métro, ils se plongent dans leur journal. Hein. Ce sont les mêmes, alors bon. Je ne souhaite pas, naturellement, qu'on ait à faire l'épreuve de leur courage. Mais les donneurs de leçons, il faudrait qu'ils aient vécu des événements dramatiques. Dramatiques. Quand vous ne savez pas où sont vos enfants, quand vous les avez confiés à un convoi militaire qui passait parce que vous êtes bombardé, ce qui se passe à Vichy, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Vous ne le savez pas, d'ailleurs il y a des presses réduites à une page recto verso, vous ne savez pas du tout ce qui se passe et puis ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir où sont vos enfants. Ce qui vous intéresse, vous êtes parti du Nord, vous êtes parti de l'Est. Ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'est devenu votre maison, ce qu'est devenu votre entreprise. Les familles ont éclaté, explosé. J'avais pris, je ne sais pas si c'est pas Lons-le-Saunier, peut-être, je ne me souviens plus, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Lons-le-Saunier, j'avais vu dans combien de départements la ville avait éclaté. La ville avait explosé dans 27 départements. 27. Et les gens, après, ils sont perdus à la ligne de démarcation. Or, pendant des mois, elle est infranchissable. Et on ne peut pas téléphoner. On n'a pas de téléphone. On ne peut pas téléphoner. C'est comme ça. On ne peut pas télégraphier parce que les Allemands ne veulent pas. On ne peut pas passer la ligne de démarcation qui n'est jamais qu'un trait sur une carte, mais c'est un trait avec des Allemands. Tout est route. Bon, on ne peut pas. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe. On ne le sait pas. Alors, les gens ne savent pas, leur maison est peut-être détruite, leurs parents sont peut-être morts, leur emploi, ils n'ont plus d'emploi. Il y a 7 à 8 millions de gens qui se sont venus regrouper comme sur une île de plus en plus étroite, une île qui serait bouffée par la mer, qui est de plus en plus petite. Ils sont tous là, avec des maires. Monsieur Herriot, à commencer par Monsieur Herriot, maire de Lyon, qui vient supplier le maréchal Pétain, qui le réveille à 3h du matin, il était boulevard du président Wilson, il couchait le maréchal Pétain, pour lui demander d'interdire, surtout que l'on défende Lyon. Il avait raison, parce qu'on n'aurait pas défendu Lyon avec 4 canons de 75, il y en avait 4, et puis 5 ou 6 bataillons. C'est pas vrai, les Allemands sont rentrés dans l'Union très rapidement. Bon. Et beaucoup de maires allaient s'installer sur les ponts pour que les ponts ne sautent pas. Et les populations disaient, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour demander l'armistice ? Alors bon, cette fatalité, ce malheur, ce drame, bon, il faut l'assumer en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts avant, beaucoup de soldats qui sont fait tuer. Et puis qu'à un moment donné, vous demandez l'armistice parce que c'est fini, parce que... À moins, évidemment. Mais alors, Reynaud n'avait qu'à préparer ça. Et c'est la responsabilité de Reynaud. Vous êtes président du Conseil, vous voyez que tout fiche le camp. Naturellement, vous faites des discours menteurs. Il est obligé de mentir. Il est obligé, sans ça, ça s'effondre encore plus vite. Mais il doit tout préparer pour partir, soit en Angleterre, soit en Afrique du Nord. Il ne doit pas le préparer le 23, le 19, ou le 17 juin, ou le 16 juin 1900. Il doit le préparer dès le 1er juin. Il doit faire ça avec Churchill, se dire, bon, eh ben on se réfugiera en Afrique du Nord, on ira en Afrique du Nord. Qu'est-ce qui serait passé? J'en sais rien, mais on va en Afrique du Nord. Mais Reynaud n'avait qu'à le faire.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Alors je reçois Henri Amouroux, qui fait partie de l'Académie des sciences morales et politiques et qui nous parle de ces deux mois, mai et juin 1940, mois sombres pour notre mémoire. Alors, Pétain demande cet armistice.
Le gouvernement
français demande.
Le gouvernement du maréchal Pétain qui était le gouvernement français. Le gouvernement de la République française. C'est encore la République française.
Alors, vous citez Hitler dans votre ouvrage qui dit, face à cet armistice, le gouvernement français doit subsister comme facteur souverain.
Qui dit ça? Oui, Hitler.
Hitler.
Oui, c'est vrai. Car Hitler, qui n'était pas du tout un idiot, hein, c'était sans doute... il finira fou, si vous voulez. Mais c'est pas un type, c'est pas une espèce d'imbécile. Les caricaturistes, les chansonniers font un grand mal. Ils font rire dans ces circonstances. Hein, ils font rire et on finit par croire que ce qu'ils disent est vrai. La France a beaucoup souffert de croire ce que disaient les chansonniers, les caricaturistes et les émigrés allemands. Et Hitler lui-même a beaucoup souffert après de sa politique de Goebbels, qui méprisait les États-Unis, il ne comprenait pas la puissance américaine. Donc il faut toujours surestimer l'adversaire. Et Hitler, qui n'était pas du tout un abruti, avait bien compris que si la France était occupée dans la totalité, oui, il avait la France occupée totalement, mais à ce moment-là, la flotte française ne restait pas dans les ports, elle partait avec qui ? Avec les Anglais. Donc il voulait éviter ça. C'est la raison pour laquelle, en effet, il accepte l'armistice. Alors, je dis, la responsabilité est à Paul Reynaud. Il fallait qu'il parte.
Pétain, il va envoyer, en fait, vous expliquez, vous montrez bien qu'en fait, il s'agit d'envoyer aux Allemands, non pas des sous-fifres, mais des personnages peu importants pour prendre les conditions de l'armistice.
Pas des personnages peu importants. Le général Hunsinger n'était pas un personnage peu important. Il avait commandé une armée, là, c'est l'une des deux armées qui sera enfoncée, d'ailleurs, le 10 mai. Non, pas du tout. Non. Il faut envoyer des plénipotentiaires. Et je vais vous dire, nous avons parlé plusieurs fois de la difficulté des communications. Les plénipotentiaires français qui vont à la recherche des Allemands ne savent pas où sont les Allemands. Ils ne savent pas. Ils montent vers le nord, ils ne savent pas, ils se trompent. Les Allemands sont à 50 km plus loin que ce qu'ils imaginaient. Les plénipotentiaires, il y avait M. Léon Noël, qui était l'ambassadeur Léon Noël. C'était le général Hunsinger qui commandait la délégation. M. Léon Noël, qui était à l'Académie des sciences morales et politiques, qui était ambassadeur de France en Pologne, et son expérience aurait dû être utilisée, parce qu'il savait bien comment ça s'était passé en Pologne. Il y avait donc un général qui représentait l'aviation, un amiral, pour voir les conditions allemandes qui sont données par l'Allemagne, qui, mettant ses pas dans les pas de sa défaite, pour humilier les Français, fait la cérémonie à Rotonde. Car l'armistice allemand est imposé à la France dans les mêmes conditions, dans le même lieu que l'Allemagne, la France et l'Angleterre, les Alliés avaient imposé l'armistice à l'Allemagne.
Geste combien symbolique. Ouais.
Mais naturellement, tu m'as marché sur le pied droit et tu m'as écrasé le gros orteil. 20 ans après, je te remarche sur le pied droit, je t'écrase. C'est pareil. Et moi, j'ai connu le colonel, il était colonel, il est devenu général, naturellement. Un colonel, je viens généralement général. J'ai connu le colonel allemand qui a fait les conditions de l'armistice du côté allemand, bien entendu. Ils devaient en partie recopier l'armistice qu'on leur avait imposé. Ils imposent à la France une armée de 100 000 hommes, comme on avait imposé à l'Allemagne une armée de 100 000 hommes. Ils laissent des armées pour les colonies, bien sûr, ce qui va permettre d'ailleurs à l'armée d'Afrique, sous le général Weygand, et grâce au général Weygand, de se développer, bien entendu. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, l'histoire est une tragique répétition.
Alors que se passe-t-il dans ce fameux wagon ?
Dans ce wagon, ben, il y a d'abord Hitler, qui reçoit les plénipotentiaires, qui les salue, qui leur fait un petit discours, il adorait faire des discours, qui rappelle toujours, comme dans toutes ses lettres au maréchal Pétain, il rappelait toujours l'armistice de 18 et l'humiliation, la honte de 18. Toujours. Les Allemands, ils avaient ça. J'ai trouvé un livre de Béraud. Béraud, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un très grand journaliste. Il a été condamné à la libération.
Henri Béraud.
Il a été condamné pour collaboration à la libération. Il a été condamné d'abord à mort, puis gracié. C'était la folie furieuse, d'ailleurs, car il n'a jamais été... Je dis cela, c'était après avoir lu tous ces articles. Hein. Quand j'écris quelque chose en disant que c'est de la folie furieuse, c'est parce que j'ai lu tous les articles avant. Il était anti-anglais. Mais il y en avait bien d'autres qui étaient anti-anglais. Il n'était pas pro-allemand, du tout.
Surtout pro-américain.
Mais il a été condamné, et puis après gracié par le général de Gaulle, et libéré relativement assez tôt. Mais enfin bref, Henri Béraud a écrit un livre en 1926 sur l'Allemagne. Je l'ai ce livre, retrouvé. Je l'ai acheté, il est tout dépenaillé. Il fiche le camp de partout. Je vous assure que dans ce livre, d'un républicain, car il fait allusion plutôt, plus souvent à son républicanisme. Tout est écrit de ce l'Allemagne, de la colère contre 18, de tout ça, de tout ce qui va se passer. Il ne parle pas d'Hitler, il en parle à peine, c'est écrit deux ou trois fois. Hitler, c'était des bandes, c'était des gens qui allaient en prison arrêtés, qui faisaient des putschs, etc. Mais ce n'est pas encore Hitler, c'était l'Allemagne de Weimar. Et il faut voir comment il parle de l'Allemagne en disant les dangers, la crainte, sa peur qu'il éprouve. Bon. Vous comprenez? Alors, bon, on fait la même chose. Ils prennent leur revanche. Hitler reçoit les plénipotentiaires français. C'était l'amiral Leluc qui représentait la marine. Voilà, ça y est. C'était le second d'Arlan. C'était les seconds. Hein. Il y avait l'ambassadeur Noël, il y avait l'amiral Leluc, le général Hussinger. Weygand avait dit qu'il était prêt à y aller. À se sacrifier, à y aller. Le maréchal Pétain a dit non, c'est vous qui avez reçu les Allemands, vous n'allez pas y aller, non. Et alors, bon, et puis après, il s'en va. Et c'est le maréchal Keitel qui lit les conditions allemandes, voilà, l'armistice. Et les Français, on avait installé une grande tente à côté du wagon. Et les Français vont dans cette tente où ils avaient le téléphone pour téléphoner à Bordeaux. Je trouvais le général Weygand.
Pour transmettre
les conditions d'armistice. Or, ils téléphonaient au général Weygand, qui était là avec le capitaine Gasser. Weygand était petit, le capitaine Gasser était très grand, il mesurait 1m95, 94, je l'ai connu. Et Gasser prenait tout en note. Et j'ai eu les notes, c'était très émouvant. Et les Allemands ont tout piégé, car les Allemands avaient fait un branchement sur la ligne, et j'ai la bande. Piégée par les Allemands, n'est-ce pas? Je ne sais plus où elle est, mais je l'ai. J'ai la bande, on retrouvera ça après ma mort. J'ai la bande prise par les Allemands avec le général Hussinger qui disait au général Weygand, mon général, je suis dans la clairière. Alors Weygand disait, mon pauvre ami. Alors il disait, voilà, comment ça se passe? Ben, les conditions sont très dures, mais elles ne sont pas déshonorantes. Et puis, il établissait tout. Et on notait tout, le capitaine Gasser notait tout. Il y avait deux dactylos qui tapaient tout et qui passaient ça au maréchal Pétain, au ministre qui était à côté, là, comme ça. Bon. Et puis, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions sur trois ou quatre articles.
Il y avait un point très important qui était la question de la flotte française.
Sur la flotte, c'était la question capitale. Évidemment, si les Allemands avaient exigé la flotte, il n'y aurait pas eu l'armistice. Et il faut dire, quand l'adversaire est intelligent, il faut dire qu'il est intelligent. Bon, ils n'ont pas exigé la flotte. Et nous avons obtenu qu'elle ne soit pas ramenée dans ces lieux, dans ces bases, mais qu'elle reste en Afrique du Nord ou en Méditerranée, où il n'y avait pas d'Allemands. L'aviation, le général Parizeau, c'était le général Parizeau qui était le général pour l'aviation. C'est merveilleux parce que, à travers tout ce que vous me demandez, Les noms remontent du puits de ma mémoire. Parce que le général Parizeau, je ne savais même pas son nom il y a une minute. Enfin, je l'avais complètement oublié. Le général Parizeau pour l'aviation. Et ils ont obtenu que les avions ne soient pas donnés à l'Allemagne, soient démilitarisés, etc. Et puis, il y a eu alors un article très, très, très discuté, très malheureux. La Vichy a joué un mauvais rôle.
Sur les instigateurs de la guerre.
Oui, sur les Allemands voulaient prendre les instigateurs de la guerre. Bon, alors... Là aussi, qu'est-ce que c'est ? C'est 1918. Comment on ne sait rien, hein, ou pas grand-chose ? Et comme ceux qui savent souvent mentent, hein, bon, comme on ne sait rien ou pas grand-chose, on oublie qu'en 18, la France et l'Angleterre, mais la France surtout, avaient demandé la livraison de 60 ou 80, ou 90 ou 100, je ne sais pas, enfin un bon paquet d'Allemands jugés comme responsables de la guerre. Et qu'on voulait les faire passer en jugement, y compris le Kaiser. Ça ne s'est jamais fait, mais ça a été demandé, enfin quand même. Bon, ils en devenaient la même chose. Ce qu'aurait dû faire Vichy, c'était vivement non, puisque c'était de les faire partir, au lieu de les livrer, car certains d'entre eux, quelques-uns, ont été livrés ensuite à l'Allemagne, dans l'été, l'automne 1940, et ça c'est honteux. Alors, donc on pouvait les faire partir, les prévenir et les faire partir. Bon. Alors ça ne s'est pas fait. Il y a eu une discussion là-dessus, les Allemands quand même ont admis de ne pas... Tout ça, c'est 40, c'est pas 42, ni 43, ni 44. On t'a admis de ne demander que certaines personnalités qui, etc. Mais il fallait dire zéro, et puis il fallait tenir bon là-dessus. Il faut toujours tenir bon sur l'honneur. Toujours. Toujours. Ils n'auraient pas rompu là-dessus. Je crois pas. Enfin, c'est comme ça. Voilà.
Alors... Les discussions, en fait, reprennent.
Mais attendez.
Chaque plénipotentiaire revient dans le train.
Non.
Revient dans le wagon.
Non. Enfin, oui, c'est pas chaque. La délégation est une délégation. C'est pas chacun vient discuter.
Oui, bien sûr.
Non, c'est pas chacun vient discuter de bout de gras. Oui. Pardonnez-moi, c'est pas, hein, c'est pas un bistrot dans la campagne landaise. Non, c'est pas ça du tout. La délégation a un président, le général Hussegger, vient discuter en correspondant avec Bordeaux, naturellement. Et puis alors, il y avait une condition. Les Allemands signaient à condition que les Italiens soient d'accord. Donc après l'accord en principe des Allemands, il faut obtenir l'accord des Italiens.
Parce qu'il faut rappeler que l'Italie a déclaré la guerre à la France.
L'Italie a déclaré la guerre le 10 juin 1940, follement. Contre l'avis de Mussolini a déclaré la guerre, contre l'avis de ses généraux. Et s'il n'avait pas déclaré la guerre, follement, l'Italie aurait bénéficié de ce conflit d'une façon prodigieuse. Mussolini ne serait jamais mort, fut mitraillé et pendu par les pieds avec Clara Petacci, sa maîtresse, à Milan. Jamais. Il serait mort dans son lit. Bon. Et l'Italie aurait été la grande bénéficiaire de la guerre. Tout le monde aurait fait des grâces, des mamours à l'Italie. Vous pensez, avec sa situation géographique prodigieuse, les Allemands ne seraient pas venus en Méditerranée. Enfin, bref, l'Italie, c'était la folie furieuse. Elle était carrée. C'était une saloperie, parce que le 10 juin, la France était battue. Bon, c'est vraiment le coup de poignard dans le dos. En plus, les Italiens ont été tenus en échec par 3 fois moins d'hommes sur la frontière franco-italienne. Ils ont été battus par les Français qui étaient là, qui étaient beaucoup moins nombreux. Bon, c'était honteux. Et ça n'a pas porté veine à Mussolini. C'était idiot. C'est la vanité. C'est l'absence totale de connaissances historiques. Bon, qu'est-ce que les gens disent ? On n'est pas chef d'État, on n'est pas à leur place. C'est l'entraîne, les généraux étaient plus lucides. Et l'armistice italien, Mussolini ne vient pas. Ciano vient, mais il reste à peine, il ne reste pas Ciano, le genre de Mussolini, que Mussolini va faire fusiller à la fin. Tout ça, c'est une autre histoire.
Vous montrez bien l'esprit
les Italiens qui avaient été nos alliés, nos alliés pendant la guerre précédente, qui n'aimaient pas les Allemands. À qui les généraux allemands faisaient comprendre leur infériorité. On n'aime pas quelqu'un qui vous fait comprendre son infériorité. Les généraux italiens qui connaissaient bien... Le général Parizeau était un ami du général italien d'aviation. Ils étaient amis. Ils disent, bon, on va... Bon, oui, on est d'accord. Oui, nous sommes d'accord. On va pas... Voilà, ils ne mettent aucun... C'est si bien que l'on sonne, les clairons sonnent, le cessez-le-feu... avant que l'armistice italien soit signé. On peut dire, oui, on est d'accord. Allez, c'est pas un mort de plus, à quoi ça sert un mort de plus bon. Et puis après, on entre dans cette longue et difficile période, juin 40 jusqu'en 45.
Alors peut-on...
Qu'est-ce que vous voulez, je pourrais en parler pendant des heures. Mais...
Peut-on justement, avec le recul, aujourd'hui dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que l'armistice ?
Vous savez, on ne refait pas l'histoire, je ne sais pas. S'il y avait une solution, bien sûr il y avait une solution, mais c'était une solution qu'il aurait fallu prendre le 1er juin. Au plus tard. Mais alors là, ça a entraîné la catastrophe tout de suite. C'était de dire, on va en Afrique du Nord. Alors bon, on abandonnait tout le territoire métropolitain. Bon, pourquoi pas, c'était une solution. L'Algérie était département français, à ma connaissance. On a entendu parler de ça comme département français pendant des années et des années. Bon, c'était les trois départements français, on pouvait aller en Algérie. Qu'est-ce qui se serait passé? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que les Allemands auraient suivi, n'auraient pas suivi? Je n'en sais rien. Peut-être auraient-ils suivi, parce qu'il ne faut jamais oublier. On dit, oui, mais il y a la Méditerranée. Non, ce n'est pas vrai. Il y a bien sûr, oui, bien sûr, il y a la Méditerranée. Je dis, ce n'est pas vrai. Je veux dire qu'il y a aussi l'Espagne, et qu'il y avait le Maroc espagnol, et que l'Espagne de Franco devait beaucoup à l'Allemagne d'Hitler et à l'Italie de Mussolini. Et que si l'Espagne de Franco, qui après, Franco beaucoup plus intelligent, et d'ailleurs, pouvant pas faire autrement d'ailleurs, Franco beaucoup plus intelligent que Mussolini, a surtout pas voulu la guerre, mais peut-être que dans l'entraînement, s'il avait vu la France occuper tout de suite, la France repliant sur l'Algérie, peut-être qu'en effet, il aurait cédé le Maroc espagnol, et il suffit, et d'ailleurs. En novembre 42, pour les gens qui disent il n'y a qu'un, moi je suis contre il n'y a qu'un, en novembre 42, le débarquement d'Afrique du Nord. L'Angleterre et les États-Unis ont littéralement la supériorité maritime et aérienne. On ne va pas discuter ça. Et les Allemands réussissent à débarquer en Tunisie et amenés par des bateaux dont beaucoup sont coulés, sans doute, bateaux italiens dont beaucoup sont coulés, par des avions, réussissent à amener assez de monde, avec le général Nering, à amener assez de monde pour tenir l'armée américaine, française, anglaise en échec jusqu'en mai 1943, car Tunis sera pris en mai 1943, de novembre. Et les Allemands, à un moment donné, menacent les Américains. Battent les Américains. C'est l'armée française avec ce qu'elle peut avoir, pas grand-chose, qui tient sur la dorsale. Mais les Allemands font une contre-offensive depuis la Tunisie qui menace l'armée américaine, qui était une jeune armée, qui n'avait pas l'habitude de la guerre. Donc en 1942, ils sont capables de faire ça, alors qu'il y a la supériorité aérienne et maritime. Et vous pensez qu'en 40, avec la supériorité non pas maritime mais aérienne, ils pouvaient faire beaucoup plus de choses. En Algérie, il n'y avait pas d'industrie d'armement.
Donc l'armistice semble la seule solution.
Je n'en sais rien. Ça s'est passé comme ça. En Algérie, il n'y avait pas d'industrie d'armement. Il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas de stock. Les avions, en effet, il y a beaucoup d'avions qui passent, ceux qui peuvent passer, ceux qui ont la possibilité, le rayon d'action pour aller jusqu'en Algérie. Ils trouvent en Algérie. Je vais dire deux, mettons cinq. Disons cinq. Ils ont en armement, en obus, cinq missions. Voyons, c'est passé. Moi, tout ce qu'on veut. Mais bon, on a dit qu'il fallait le préparer. Si on avait préparé, si on avait dit, nous, notre arrière, les Russes avaient un territoire, mais il n'y avait pas la Méditerranée. Les Russes ont pu reculer dans une superficie plus longue, une surface plus grande que la France. Mais ils ont pu reculer parce qu'il y avait des arrières, encore et des arrières et des arrières. C'est l'histoire napoléonienne.
Ils ont reculé.
C'était pas le cas de la France. Alors il fallait préparer. Alors on dit, nous préparons. Mais on n'a pas préparé. Non seulement on n'a pas préparé, mais on a fait venir d'Afrique du Nord les unités les meilleures pour qu'elles se battent en France. Nous n'avions pas de chars en Afrique du Nord. C'est une plaisanterie. Il y avait un chemin de fer. Une ligne côtière de Tunis à Rabat, si vous voulez, une ligne. On ne refait pas l'histoire. Oui. C'est très facile, il faut la faire quand on est aux commandes. Alors quand on est aux commandes, il faut la faire, mais la refaire après, c'est trop simple. Alors vous gagnez toutes les guerres. Un de mes amis, j'ai beaucoup aimé, qui a écrit un grand livre, dont on ne parle malheureusement plus, qui est une malhonnêteté, c'est Robert Aron. Robert Aron a écrit en 1954 un livre essentiel qui s'appelle « L'histoire de Vichy ». Tous ceux qui ont appris, ont écrit après, moi compris, Non, il y a d'abord l'histoire de Vichy d'Oberaron. Il était juif, il avait essayé de partir pour la... il est parti d'ailleurs pour l'Afrique du Nord, en 1942, et Robert Aron a écrit l'histoire de Vichy. Et l'histoire de Vichy est une histoire essentielle, parce qu'il comprenait, il expliquait la complexité. Il ne disait pas c'est tout pareil, tout ceci, tout cela, non, non. Il disait voilà, il y a le premier Vichy, le second Vichy, le troisième Vichy. Il expliquait. Il est pour ça détesté par tous les manichéens qui triomphent aujourd'hui. Mais les manichéens, ça peut les amuser, mais c'est de la blague. Ça ne marche pas. L'histoire est complexe. L'histoire est complexe, elle est compliquée, et c'est pour ça qu'elle est passionnante. Si c'est un long fleuve tranquille, mais vous vous ennuyez prodigieusement, je ne me suis jamais ennuyé en écrivant cette histoire et en continuant à l'écrire. Une histoire de drame, une histoire de mort, de vie, de famille éclatée, de famille explosée, de cas de conscience dramatiques, en un temps où les cas de conscience se posaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Où les enfants n'avaient pas comme éducateur la télévision, mais le prêtre, le professeur et les parents comptaient. Et les parents comptaient. Et où le 19e siècle était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui, dans une France rurale à 45%. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors aujourd'hui, ben, on raconte des briques, n'importe quoi, mais ça amuse les gens de raconter n'importe quoi, ça ne me gêne pas. Mais c'est faux, du tout. Ils mettent la pyramide sur la pointe. Je n'ai jamais vu de pyramide tenir longtemps sur la pointe.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Henri Amouroux, je vous remercie. Je renvoie nos auditeurs à votre œuvre majeure, La grande histoire des Français sous l'occupation, dans la collection Bouquins, chez Robert Laffont.
Si je peux dire un mot, je vais vous dire, ça m'a fait grand plaisir d'être dans Bouquins. Un immense plaisir.
Eh bien.
La vanité, sans doute. Parce qu'il y a des confrères qui font des livres, bien sûr, mais des livres, des dictionnaires. Mais hors dictionnaire, avec Courrières, nous sommes les deux seuls auteurs vivants. Alors, quand on voit les autres auteurs, on se dit, oui, aïe, aïe, c'est pas mal d'y être, c'est pas mal. C'est la vanité, bien sûr. Mais... Et alors, du coup, comme j'étais vivant et pas mort, j'ai ajouté 400 pages. Mes premiers livres avaient paru en 76, et là, c'est en 2000 ou 1999. J'ai donc ajouté 400 pages, j'ai fait des ajouts. C'était un boulot, j'ai travaillé 2 ans pour faire 400 pages, pour compléter l'information pour les lecteurs. Il ne faut jamais mépriser ces lecteurs. Voilà, il faut les aimer.
Henri Amouroux, merci. Et je donne rendez-vous aux auditeurs à la semaine prochaine.